Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans la création de contenu? Quels sont les meilleurs générateurs d'images? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'impact de l'IA sur la création de visuels, produit par le collectif d'influenceurs B2B, la Brigade du Web. Je suis Annie Abella, la fondatrice de la Brigade du Web, et aujourd'hui, c'est au tour de Martine Lejossec et Christine Soto, toutes deux expertes en communication. Martine et Christine vont partager leur vision sur cette thématique.
Merci Annie. Alors en fait, nous allons tout simplement présenter ce podcast en trois parties. Nous allons d'abord faire un état de l'art, avant de donner donc quelques points de débat et de discussion, pour terminer par quelques conseils. Rappelons quand même que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil qui va nous permettre d'accélérer les choses, d'être plus rapide, de faciliter nos productions, mais que finalement, ce ne sont que des outils. Il faut quand même qu'il y ait un humain qui décide de tout ça et qui crée tout ça. Donc finalement, nous allons nous axer aujourd'hui plus particulièrement sur le point de vue des graphistes, des directeurs de création et des artistes. Alors, Christine, où en est-on aujourd'hui? En fait, finalement, concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle pour la création visuelle? Peux-tu nous en dire plus?
Oui, Martine, il y a deux grandes catégories d'usage de l'IA pour la création visuelle. Il y a l'IA générative sur une plateforme et l'IA intégrée dans les outils comme Microsoft, Adobe ou encore Canva. En tout premier d'ailleurs, l'IA générative qui est générateur d'images. Comme DALL-E, Midjourney. Comme on brieferait une agence, en fait, on crée un prompt pour donner les consignes détaillées afin d'obtenir un résultat. Ou encore avec un modèle, une photo, ou encore un dessin d'enfant. Et en second, nous avons l'IA intégrée directement dans des solutions de suite, graphiques, bureautiques, comme Adobe Firefly de Photoshop, ou encore Copilot, l'IA dans la suite Microsoft, qui d'ailleurs est déjà testé par beaucoup d'entreprises. Pour traiter les images existantes, une photo, une illustration ou encore un résultat produit par DALL-E par exemple, pour retoucher et modifier en détail et augmenter l'image. Je vous donne un exemple concret. Vous avez intégré une photo, une image d'une forêt et vous allez intégrer dans cette image des détails comme « j'ajoute une biche », je lui donne une couleur, je lui fais des très jolis yeux de biche et je lui mets des petits cœurs à la façon Walt Disney. Et bien là, vous avez en effet modifié en détail et du coup augmenté l'image.
Donc Christine, tu es en train de nous dire qu'il y a deux grandes catégories d'outils et d'usages pour la création visuelle. Mais finalement, est-ce qu'on doit faire un choix ou est-ce qu'on peut les utiliser en complémentarité?
Très, très bonne question, Martine. En effet, il faut bien faire le choix parmi les outils. Car il y a une possibilité d'interopérabilité. Nom de chien, ce nom est difficile à dire, mais interopérabilité et complémentarité des outils. Comme par exemple, utiliser une création réalisée par DALL-E et l'améliorer avec Firefly. Bien sûr, il y a bien d'autres outils de création avec l'IA, comme Stable Diffusion ou encore Dream Studio et encore LensGo.
Alors, plus concrètement, Christine, on parle d'IA et de création de visuels, mais est-ce que tu as vu passer des réalisations, qu'elles soient artistiques ou dans des campagnes de publicité, qui utilisent l'intelligence artificielle finalement?
Alors écoute, il y en a plusieurs qui nous ont toutes deux d'ailleurs étonnées ou stupéfaites, on va dire ça comme ça. Alors on a d'abord une campagne de com qui a été faite par l'Office du tourisme de Chamonix. Une campagne de promotion pour valoriser la nature en introduisant, en fait, des animaux auprès de touristes, ce qui n'aurait pas été possible, en fait, aussi rapidement et surtout aussi facilement sans intelligence artificielle. Nous avons un deuxième exemple, alors celui-là qui nous a étonnés parce qu'il nous a fait aussi sourire, c'est Burger King. Burger King a fait une campagne de pub pour Halloween qui utilise intentionnellement les incohérences de certains résultats de l'IA, comme plusieurs bouches, disproportionnées, trois mains, enfin tout ce qu'on a vu au tout début de l'IA et qui nous a beaucoup fait rire. Le troisième exemple, là, c'est plutôt dans l'émotion et la sensibilité, parce que en effet, l'utilisation de l'IA peut provoquer l'émotion. C'est l'association CNAPE, Fédération de la protection de l'enfant, qui comprend 169 associations pour la défense des enfants, une excellentissime campagne presse très réussie qui utilise l'IA pour rajeunir des personnalités. En l'occurrence, il y avait un jeune Patrick Bruel, un jeune Nagui, une très jolie jeune Anne-Elisabeth Lemoine ou encore Ophélie Meunier. Là, l'effet émotion était total et la sensibilité a touché beaucoup de cœurs et beaucoup de ceux qui ont pu voir la campagne. Et puis la dernière, c'est Undies. Alors Undies, ils ont fait leur première campagne de pub avec une grosse opération de RP à l'appui pour afficher que leur création avait été faite spécialement avec l'IA, donc coup de buzz puisqu'ils ont été la toute première campagne de pub et elle a été très réussie puisque tout le monde l'a vu et tout le monde en a parlé.
Donc là, tu nous as parlé de la publicité, mais finalement, les artistes, je sais que c'est un domaine, l'art, qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu as vu des exemples intéressants d'artistes qui utilisent de l'intelligence artificielle?
Oui, alors en effet, Martine, là, je dois avouer que l'art et moi, on s'entend bien. J'adore et je suis ça de très, très près. Alors oui, il y a l'un d'entre eux qui est un Français. Il s'appelle Kirel Benzi. Il est docteur en data science, chercheur en intelligence artificielle et data artiste, s'il vous plaît. Et qui aime à dire qu'il veut révéler la beauté des data et de rendre la science plus accessible à travers l'art. Un autre artiste à suivre de très près, parce que lui, il fait beaucoup, beaucoup parler de lui et il est absolument fantastique. Un pionnier de l'esthétique de l'IA. C'est un Turc qui s'appelle Refik Anadol, qui a impressionné le monde entier avec sa réalisation présentée au MoMA à New York. Je rappelle que le MoMA est le musée d'art moderne de New York, qui au départ devait être un happening, donc éphémère, et qui en fait désormais fait partie désormais de la collection permanente du musée. Pour les découvrir tous deux, il vous suffit tout simplement d'aller sur Instagram parce qu'ils font connaître leurs nouveautés et surtout, ils vous donnent des nouvelles de ce qu'ils vont présenter. En l'occurrence, Refik Anadol était à Davos. Il a fait une présentation absolument magique et magnifique à Davos. Et là, en ce moment, il a des projets sur Londres à suivre de près. Donc, pour tous les deux, je vous propose d'aller sur Instagram. À noter d'une manière générale, les artistes, et ça, c'est important. Les artistes précisent la technique utilisée, notamment s'ils utilisent une IA. L'IA fait peur à beaucoup, Martine, et continue de faire débat. Quels sont, d'après toi, les points de vigilance?
Alors, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'IA fait débat. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Bon, nous, on va pas dans ce podcast rentrer dans les allers-retours entre OpenAI, ChatGPT et consorts. C'est pas notre propos. On va plutôt s'axer sur les questions de fond. Et on a vu toutes les deux au moins 4 points qui doivent attirer notre attention par rapport à l'utilisation de l'IA. Alors, pour l'IA, j'ai envie de dire, c'est comme à chaque innovation. Il y a toujours les gens qui vont trouver que ça va trop vite et que ça leur fait peur et qu'il faudrait ralentir. Et à l'opposé, tu as ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, les technophiles, et qu'il faudrait donc débrider complètement tout ça. Je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu. Et notamment, le premier point, c'est cette nécessité que ressentent beaucoup de réglementer et tout du moins de cadrer l'usage de l'IA. Alors, autant au niveau de l'ONU, qui conseillerait de faire un comité consultatif, au niveau de l'Europe, on parle aussi d'un GIEC, pour l'équivalent d'un GIEC pour l'intelligence artificielle. Pour donner un exemple d'un corps de métier, tu as par exemple Reporters sans frontières, donc qui a fait donc la charte de Paris sur l'IA et le journalisme avec plusieurs organisations. Donc cette nécessité de cadrer. Donc ça, c'est le premier point.
Effectivement, c'est crucial, Martine, mais quel est le deuxième point de vigilance d'après toi?
Alors, le deuxième point de vigilance qui lui aussi fait énormément débat, c'est toute la problématique des sources et des droits d'auteur. Et j'ai envie de dire aux deux bouts de la chaîne. Notamment, donc on sait très bien que l'IA, en fait, s'est nourrie de tout ce qu'il a trouvé sur Internet. Mais les visuels, notamment les photographies, les illustrations qu'il a trouvées sur Internet ont bien été produites par des humains à la base. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement, concrètement, quand l'IA produit, réalise un dessin à partir de, en s'inspirant du dessin de, par exemple, de 3 illustrateurs différents? Il y a là vraiment la problématique des droits d'auteur parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout comment gérer ça. À l'autre bout de la chaîne, qui est propriétaire finalement de la réalisation produite par l'IA? Est-ce que c'est uniquement la plateforme ou la personne qui a fait le prompt? Donc c'est un vrai sujet de débat, cette notion des droits d'auteur et des sources, parce que bien évidemment le problème c'est qu'il nous indique pas de qui il s'est inspiré. Peut-être qu'il s'est inspiré de 3 artistes, de 10 artistes différents, mais l'IA ne nous précise pas de qui il s'est inspiré. Donc c'est une vraie problématique.
Donc, ce que tu dis évoque un troisième point important, c'est la nécessité de déclarer qu'on utilise l'IA. Faut-il un label pour dire si l'IA a été utilisée ou pas? Enfin, en tout cas, les artistes, ils ont tranché, puisque comme je l'ai dit au préalable, ils le déclarent. Sera-t-il bientôt obligatoire, comme le souhaiterait l'Europe, Martine?
C'est une vraie question. On ne sait pas trop, en fait, finalement, ce qui va se passer. Et pour revenir sur le... J'ai oublié de préciser quelque chose tout à l'heure. En fait, certains ont trouvé une parade pour cette notion de droit d'auteur. Et de plus en plus de personnes, en fait, développent des solutions pour ce qu'on appelle bloquer les crawlers, faire en sorte, en fait, que l'IA ne puisse pas avoir accès à leur contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. Donc, au niveau de la nécessité de préciser, moi, je pense que c'est important, et notamment pour les journalistes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éthique et de déontologie auprès des journalistes. On ne peut pas imaginer qu'une rédaction utiliserait de l'IA pour faire des articles sans donner l'indication. Alors, le dernier point important qui n'est pas négligeable, c'est l'impact environnemental de l'utilisation de l'IA. Finalement, pour que ça fonctionne, ça suppose des ordinateurs qui fonctionnent H24, qui sont dans des salles climatisées. Donc ça, c'est pas anodin. Donc, on considère que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'indications là-dessus, mais on sait déjà que faire un prompt, par exemple, c'est comme si à chaque fois, on jetait un verre d'eau. Je sais que l'ADEME est en train de se pencher sur le sujet, donc on devrait avoir très bientôt plus d'informations à ce sujet, c'est-à-dire concrètement, quel est l'impact environnemental, l'impact carbone de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Après tous ces points de vigilance, on va terminer par plus de pragmatisme et quelques conseils. Comment utiliser au mieux les outils? Notamment, comment éviter l'homogénéisation et une certaine platitude? À force de travailler avec toujours les mêmes outils, ils finissent par s'inspirer d'eux-mêmes et en créer leur propre biais. Comme on a pu le constater lors de certains tests, pour une demande d'image de maison, par exemple, l'IA nous propose par défaut une maison de style américain, car les données sur lesquelles l'IA se base sont principalement américaines. T'en penses quoi, Martine?
Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, moi, à titre personnel, j'utilise l'IA pour surtout savoir ce que je ne vais pas utiliser comme information. C'est-à-dire, je lui pose des questions ou je fais réaliser des illustrations. Et finalement, le résultat obtenu, c'est justement, ça va me donner l'indication de ce qu'il ne faut pas faire pour être un peu original. Parce que l'IA, je trouve que ça donne des résultats assez plats, puisque c'est statistique. En fait, il te propose toujours le résultat, je dirais, le plus partagé par d'autres personnes. Donc, pour la créativité, on repassera, en fait, concrètement. Donc, il est important de rappeler, donc, en conseil, ce qu'on peut dire, c'est faire ses prompts. Bien savoir faire ses prompts est hyper important, puisque tout ça, c'est une question de sémantique. Si, par exemple, tu lui parles d'un parc ou d'un jardin, tu n'auras pas les mêmes résultats. La sémantique est vraiment très importante, donc il faut être très précis quand on fait des prompts. D'ailleurs, il y a de plus en plus de formations qui se créent pour apprendre à utiliser l'IA. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un prompt? Eh bien, il ne faut pas oublier donc de donner un persona, c'est-à-dire à qui on veut s'adresser. Complètement, est-ce qu'on veut s'agresser au conseil d'administration, à des clients en B2B par exemple, les tâches demandées, qu'est-ce qu'on veut concrètement obtenir comme résultat, comme rendu, l'objectif qu'on lui assigne, le contexte aussi est très important de lui donner du conseil, du contexte pardon, et puis il sera aussi important de penser qu'on va pas dès le premier prompt avoir un résultat impeccable. On va procéder par étape en étayant à chaque fois.
Pour conclure, n'oublions pas que l'IA n'a pas de qualité humaine. Ça, faut en être conscient. Il ne ressent aucune empathie, aucune émotion. Il n'a pas de créativité, ni d'intuition, et encore moins d'imagination.
Tu as raison. Un artiste ou un graphiste, ce n'est pas juste quelqu'un qui a beaucoup de crayons. C'est aussi quelqu'un qui conçoit, qui imagine, qui est un créatif, qui a une véritable intention, voire parfois un message à faire passer ou une émotion. Donc, l'IA, en fait, ce ne va être que juste qu'un super outil qui va lui permettre d'être plus rapide et de simplifier, en fait, finalement, son quotidien et la réalisation de ses œuvres.
Merci Martine, merci Christine pour ce podcast extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez un petit mot pour remercier nos auditeurs?
Oui, merci beaucoup à toi Annie, merci à ceux qui nous écoutent. Bah, écoute, ça a été un plaisir de faire ce podcast parce que sincèrement, c'est un sujet qui nous passionne. Et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire et à suivre. Voilà, en tout cas pour mon côté.
Exactement, merci. Et puis j'ai envie de dire, soyez convaincus, nous sommes des êtres humains et c'est nous qui allons rester les créatifs de l'histoire.
Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, suivez la Brigade du Web sur X avec le compte @labrigadeduweb et le hashtag LBW. N'hésitez pas à me contacter à annielabrigadeduweb.fr si vous souhaitez faire appel à notre expertise pour booster vos événements et vos contenus. À très vite. Au revoir.